Entre le 22 et le 24 septembre, la Fédération québécoise des municipalités, également connue comme étant la FQM, a tenu son 80e congrès à Montréal. On dit qu'il y a environ 2000 personnes des quatre coins du Québec qui étaient présentes, dont plusieurs élus, bien sûr. Et parmi les invités, parmi les gens qui étaient là, ben Michel Lagacé, le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, qui était sur place. Bon matin, M. Lagacé.
Bonjour, si vous voulez.
Que retenir de ce congrès de la FQM? Parce qu'on a eu quelques indications, les sujets qui ont été abordés, mais concrètement, qu'est-ce qu'on doit retenir de cet événement-là?
Ben, je dirais qu'à proximité de l'élection du 3 octobre, il y avait passablement d'ateliers politiques. Il y en a habituellement, mais là, il y avait vraiment une emphase sur les ateliers politiques où les représentants des partis, des cinq partis qui sont en cause actuellement, ben venaient faire état de leur ambition à donner la cause qui devait être le prochain gouvernement. C'était le cas sur les énergies renouvelables. C'est un atelier que j'animais vendredi matin. C'était le cas en santé, services sociaux notamment. Puis tout ce qui est en lien avec la forêt comme outil de développement pour les communautés. Donc, il y avait une panoplie, d'ateliers, de formations d'heure en heure, d'ateliers juridiques. Mais les ateliers politiques, le vendredi, ont pris beaucoup de place, au même titre que le dîner avec les discours des cinq chefs de parti. Ça a pris beaucoup de place. Puis je dirais que c'était intéressant sur ce point de vue-là, là, d'entendre les chefs de parti sur leur volonté de contribuer à l'amélioration des différentes situations qu'on vit dans nos régions.
Moi, j'imagine qu'un congrès de la FQM en pleine période électorale, c'est différent d'un congrès de la FQM en temps normal.
Oui, tout à fait. Ben, je dirais d'abord, comme je le disais tantôt, là, il y a eu beaucoup d'ateliers sur qui touchaient l'aspect politique. Donc, il y avait des représentants des partis dans chacun des ateliers qui faisaient part de leur attente, de leur volonté. Puis, dans le cas des cinq chefs de parti, ben, vendredi midi, c'était leur allocution. Donc, on a vu, je dirais, différents points de vue qui ont été émis. Certains qui étaient plus intéressants que d'autres, en lien avec notamment les attentes des municipalités, des MRC, de la FQM.
Oui. Je lisais également différents articles. On a parlé, semble-t-il, de décentralisation, d'inflation également, ce qui interpelle plusieurs élus, parce qu'il y a vraiment une crainte avec la hausse des coûts de matériaux, la hausse de l'inflation. Il y a des municipalités qui sont maintenant prises à la gorge, parce que des travaux qui, à la base, devraient être nécessaires, ben on commence à se questionner, à savoir est-ce qu'on va avoir l'argent pour le faire. Est-ce que, justement, il y a des solutions concrètes? Est-ce que ça a été, justement, un des sujets de discussion les plus imposants de ce congrès-là?
Ben, je dirais que ça fait quand même au moins 2 ans là, qu'il y a des préoccupations sur la capacité des communautés à réaliser des projets. Parce que on l'a vu, la pandémie a un impact direct sur l'augmentation des coûts. Bien avant l'augmentation de l'inflation de façon très sentie, il y a eu une augmentation des coûts en lien avec les infrastructures. Ça fait au moins 2 ans là, que la FQM demande, et puis assurément l'UNT aussi, mais demande à ce qu'il y ait des ajustements sur les variables en lien avec la réalisation des travaux. Parce que ceux qui cassent actuellement, ben, c'est les communautés qui doivent augmenter leur propre participation. Puis dans le cas de l'inflation, bien entendu, ça a été abordé. Puis dans le cas de l'inflation, c'est clair ce qui est demandé au gouvernement qui va être là à partir du 3 octobre. Je dirais, leur gousset à eux se remplisse, les nôtres se vident. Donc, c'est de voir à ce qu'il y ait une plus juste répartition des bénéfices qui sont liés à l'inflation. Parce que ceux qui encaissent actuellement, puis on le voit dans les recettes gouvernementales, c'est autant le gouvernement du Québec que le gouvernement fédéral. Et dans notre cas, nous, ben c'est des pertes sèches qui vont être dans nos budgets pour cette année et les années suivantes, à partir du moment où le taux d'inflation ne rencontrera pas le 2%, je dirais, quasi historique des 10 à 15 dernières années.
Autre sujet, semble-t-il, qui a été sensible, c'est la décentralisation. Ça fait des années qu'on en parle d'accueillir plus de fonctionnaires en région. Il y a eu des promesses électorales faites à ce sujet-là qui n'ont pas toujours été remplies. Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? Est-ce qu'on a encore espoir de voir une forme de décentralisation au Québec? Est-ce qu'il y a un parti qui vous interpelle plus que l'autre? Est-ce que c'est une réalité ou au contraire, on va devoir oublier ça? Parce que on en parle, mais on a l'impression que ça se produit jamais, là.
Ben, je dirais que ça, c'est vraiment un enjeu, là. Ça fait plusieurs années, je pense les années 2010, où on parlait de décentralisation. avec Mme Normandeau, M. Béchard, il y avait des volontés qui étaient exprimées. Il continue à avoir des volontés exprimées, puis là, on parle de décentralisation des fonctionnaires jusqu'à 5 000 d'ici le prochain mandat. Mais ce qu'on demande dans notre cas, nous, là, c'est pas uniquement des fonctionnaires, c'est des décideurs. C'est des gens qui vont prendre des décisions en fonction des réalités territoriales, régionales. C'est malheureusement, actuellement, là, c'est vécu depuis plusieurs, trop d'années, c'est que les décisions, là, il y a élastique, les décisions se font à Québec, puis au détriment, dans bien des cas, de la situation des MRC, des municipalités. Ça, ça a été relevé, ça a été dit. Ce qui est clair, c'est que là-dessus, il y a des attentes qui sont très grandes. On parle de plus en plus, en ce qui a trait à l'aménagement du territoire, de décisions politiques à politique. Donc, les orientations des territoires de la MRC priment sur des appréciations centrales ou régionales qui sont pas souvent de fois là, calquées avec nos attentes, nos besoins, parce que la connaissance des territoires, bien entendu, c'est les directions, les urbanistes dans nos MRC qui ont une fine connaissance. On est appuyé notamment par les inspecteurs, les équipes de en lien avec l'urbanisme local, tel que la ville de Rivière-du-Loup, dans d'autres communautés. Fait que c'est clair là-dessus qu'il y a des attentes. Puis j'en ai parlé l'autre fois, là, idéalement une entente cadre là, qui permettrait au territoire de MRC d'identifier leurs besoins, puis aux régions d'identifier leurs besoins, puis qu'éventuellement bien, qu'on puisse vraiment parler de décentralisation, de déconcentration, puis que les gens puissent prendre des décisions pour la connaissance de leur territoire.
Parce qu'on a l'impression, M. Lagacé, que dans les dernières années, on a perdu plus de services en région. Puis je parle pas nécessairement d'ici, mais c'est un constat général. Que les régions ont perdu plus de services qu'on en a gagné, là.
Ben, je dirais que je crois que votre appréciation est la bonne, parce que on voit là, le fait que les pouvoirs glissent vers le central, que l'élastique qu'on souhaite ramener en région, bien rapidement, ils nous éclatent des doigts, puis ils s'en retournent rapidement vers le central. Vous savez, les fonctionnaires au central, leur principal job, là, c'est de faire en sorte qu'ils continuent à avoir un job. Et c'est peut-être ça le problème actuellement. Là. Il faudrait peut-être un peu plus de décentralisation, de déconcentration, puis que les décisions se prennent là où elles doivent être prises, c'est-à-dire en région, dans nos territoires, pour le bénéfice des citoyens. Puis vous savez, ça fait longtemps là, que je fais la politique, des fois je pourrais me dire trop longtemps, mais à partir de Québec-Montréal, là, quand tu penses imaginer des programmes qui vont satisfaire à tout le monde, ben c'est pas possible. Donc il faut qu'il y ait des choses qui prennent place en faveur des régions, en faveur des territoires, mais de façon décentralisée, déconcentrée, en tenant compte de nos besoins. Et actuellement, ben, c'est pas le cas.
Monsieur Lagacé, on change de sujet. Quelle évaluation faites-vous jusqu'à maintenant de la campagne électorale sur la scène locale et régionale? Hier, on en a parlé avec le maire Mario Bastille. Après la séance du conseil, il a dit, bon, c'est souvent les enjeux nationaux qui reviennent, c'est souvent la cassette qui part. Ne semblait pas nécessairement enchanté par ce qu'il a entendu jusqu'à maintenant, même était déçu de la prise de position des candidats, notamment dans le dossier de la traverse à Rivière-du-Loup. Quelle est votre évaluation jusqu'à maintenant de la campagne électorale sur la scène locale? Je veux pas qu'on parle nécessairement du national, mais sur la scène locale, est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant? Est-ce que vous en vouliez encore un peu plus? C'est quoi votre évaluation jusqu'à maintenant?
Ben, je dirais que dans le cas du conseil de la MRC, on a rencontré les 5 candidats le 15 septembre dernier, ça a été un exercice intéressant. On a vu, je dirais, des points de vue qui ont émergé des principaux partis, des tenants. Ce qui est clair, c'est que c'est pas une campagne locale qui est très époustouflante. il y a certainement matière à amélioration. Effectivement, là, je rejoins M. Bastille sur le fait que les préoccupations locales, on n'a pas entendu parler tant que cela. Là, quand on parle du logement, notamment, quand on parle justement, on parlait tantôt de décentralisation, déconcentration, le fait que ce qui s'en vient au niveau du CIS du Bas-Saint-Laurent avec des directions adjointes, ben, qu'est-ce que ça va donner dans les faits pour ce qui est des différents territoires de MRC, la proximité avec les élus, les populations locales. C'est des enjeux qui sont extrêmement importants. Même chose pour ce qui est de l'environnement, là. Il y a des sujets qui auraient pu être mieux abordés, mieux développés, notamment en ce qui a trait à la SEMER. Puis dans le cas de la SEMER, ben les partis, les représentants ont signifié leur intérêt à ce que ce dossier-là se se conclut dans les meilleurs délais. Il y en a même une personne qui a parlé, c'est fini le niaisage. Fait que, donc, je dirais qu'il y a certainement matière à ce que les enjeux locaux soient plus prédominants que ce qu'on a pu entendre dans les derniers jours.
Parlant de la SMR, ça aiguise, j'imagine, votre patience. À quel point, justement, on va laisser les élections passer parce qu'on peut pas régler des dossiers pendant la campagne électorale, mais à quel point on a hâte que ce dossier-là aboutisse, parce que ça fait maintenant tout près de 4 ans où il y a eu la fameuse conférence de presse. Et depuis ce temps-là, on est toujours en attente des subventions. Est-ce que vous confirmez que tous les papiers, tous les dossiers, tout ce qu'on a besoin au gouvernement, c'est réglé, on attend juste la réponse?
Ben, il reste la machine à saucisse là, en lien avec Pricewaterhouse, là, qui doivent avoir débuté pour terminer l'analyse du dossier sur l'aspect pérennité financière. Ça, on est, confortable par rapport au fait que l'analyse va être positive, là, parce que je dirais entre les documents qui ont été fournis 20 ans et demi, 2 ans, aller aujourd'hui, ben, on se rend compte qu'on est mieux en lien avec les prévisions que ce que Pricewaterhouse avait identifié. Donc, c'est sûr que le seuil d'impatience, ça fait très longtemps qu'il est atteint, puis que là, au sortir des élections, peu importe qui va être là, que ce soit au local ou à la taille des ministères, ben, il faut qu'il y ait un livrable. Ça, c'est clair. Puis, je l'ai dit l'autre fois, là, si ça aurait été un début de projet qui est envoyé par Montréal, ben, il y aurait eu une réponse avant que le projet soit dans la poste. Dans notre cas, nous, on est toujours en attente. Et je répétais la semaine passée, là, parce qu'il y avait 5 représentants de parti, là, que la SMR, quand elle va liquéfier, ben, ça va être l'équivalent d'un retrait de 4750 voitures du parc autoroutier au Bas-Saint-Laurent, alors qu'actuellement, on s'en contente de 625. Puis, quand on regarde ce qui se passe au niveau des changements climatiques, à un moment donné, il faudrait que les gens s'enlèvent un peu les doigts dans le nez et qu'ils procèdent.
Vous êtes convaincu, M. Lagacé, que si ce projet-là avait été à Montréal, que ça serait déjà réglé, qu'on est pénalisé vu que c'est un projet en région?
Ah, j'ai aucun doute là-dessus. Là. Aucun doute. Vous savez, je regarde Montréal là, qui demande des milliards, là. Et dans leur cas, eux, c'est VIA qui va leur donner un coup de main pour leur papier. Ils sont pas capables d'adresser la situation. Dans le cas des matières putrescibles, ben, il y a encore une fois, la construction des usines est arrêtée parce que les gens sont sortis du chantier, il y a mésentente. C'est que c'est en 2018, là, ça devait être l'interdiction des matières, l'enfouissement des matières putrescibles. En 2018, parce que les grandes villes n'étaient pas prêtes, ben, ils ont repoussé. En 2020 et 2022, là, c'est rendu 2025-2030. Donc, pendant que les petits se préparent, puis qu'on assume nos responsabilités, pas uniquement au niveau économique, mais au niveau environnemental, ben, il y en a d'autres qui ont dormi au gaz, c'est le cas de dire, puis qui n'ont pas livré. Puis c'est nous qui sommes pénalisés parce que les grands n'ont pas livré ce qu'ils devaient livrer.
Oui. Monsieur Lagacé, avant de vous laisser, une petite question sur l'éco-centre. On achève, c'est sur le point d'ouvrir, parce que ça suscite quand même de l'intérêt. La semaine passée, on en a parlé un petit peu, là, comme quoi c'est dans les prochaines semaines là, qu'on va être en mesure d'ouvrir le nouvel éco-centre situé dans le parc industriel à Rivière-du-Loup.
Oui, d'ici la fin novembre, là, on devrait être en mode opération. Puis quand je dis fin novembre, là, c'est l'échéancier le plus loin qu'on pense qui est visé, là, parce qu'il devrait avoir un livrable à la fin octobre. Donc, on se laisse quelques semaines pour faire les transferts nécessaires puis d'entrer en mode opération. Puis, on va faire les prévisions budgétaires pour le mois de novembre, là, où on va regarder, voir si effectivement, on a des demandes historiques là, en lien avec l'ouverture de l'éco-centre, pas uniquement en période, exemple, du mois du printemps aller à l'automne. Il y a des gens qui souhaitent que l'éco-centre puisse ouvrir aussi en d'autres périodes. Bien, c'est ce qu'on va regarder au travers des prévisions budgétaires qu'on va adopter en novembre.
Merci beaucoup, M. Lagacé.
C'est un grand plaisir.
Bonne journée. Bye-bye. Donc, Michel Lagacé, préfet de la MSA de Rivière-du-Loup, président de la SMR, vous le savez, porte plusieurs chapeaux. Intéressant le bout de la SMR, là, où il brasse un peu plus la cage en disant que si ça avait été un projet à Montréal ou à Québec, probablement que ça serait réglé. Vu qu'on est en région, est-ce qu'on est pénalisé de quelconque façon? On peut être d'accord ou non avec cette affirmation-là, mais il y en a plusieurs qui pensent qu'il y a un petit peu de vérité dans ce que dit M. Lagacé. C'est pas la première fois que je l'entends, d'ailleurs, mais c'est la première fois que ça vient de la bouche même du principal intéressé. Sinon, ben, congrès de la FQM, vous le savez, puis l'éco-centre aussi, on est sur le point là, de procéder à l'ouverture du nouveau site. J'en ai parlé la semaine passée, plusieurs commentaires. Tu sais, l'écocentre, on va se le dire, c'est un des sujets qui intéresse les gens. Ce qu'on a présentement sur la rue de l'Âge, on le sait que ça ne fait plus l'affaire. Donc, il y a un projet présentement qui est en cours, vous le savez. La MRC qui a acheté les anciennes installations des conteneurs verts dans le parc industriel quartier Saint-Ludger. On a procédé à des aménagements et d'ici la fin du mois de novembre, on devrait être opérationnel avec le nouveau site de l'écocentre.